Radio G 101.5 FM.
Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Et bonsoir, chers auditeurs.
Bonsoir.
Bienvenue dans le manche disque. Une fois de plus, Julien et Nico, on est là pour vous divertir en cette horaire tardive.
Oui.
Avec des disques vinyles de nos collections respectives.
Tout à fait.
Et on vous a fait, comme d'habitude, pour cette 33e émission, une sélection.
Assez éclective, je pense.
Ouais, on a passé en revue nos disques. On s'est dit que c'était, comme d'habitude d'ailleurs, assez éclectique. On va partir aussi dans de la musique plus de genre, hein, si on peut appliquer ça aussi à la musique comme au cinéma. Et puis des choses un petit peu plus rassurantes. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez à la fois voyager,
tout
à la fois
vous
retrouver. Tout va bien se passer. Et on va commencer par de la Blaxploitation.
Thank you.
Mais c'était pas le morceau le plus funky de Blaxploitation qu'on ait connu.
Ouais, mais c'était un petit peu ambiante, on était bien là.
Voilà, un petit peu jazzy, un petit peu cool pour commencer cette émission dans la douceur.
C'était soit une scène peut-être d'amour, ou en tout cas de tranquillité, de promenade peut-être à Coney Island pendant le film, j'en sais rien.
Ouais, peut-être, parce que le film dont tu parles, effectivement, on l'a pas dit, c'est Soft Guy. Tough Guy, je sais pas comment on dit.
Ouais, Tough Guy, je pense.
En tout cas, c'est un film de 1973 et la BO est signée Isaac Hayes.
Avec quand même au casting une petite particularité, on vient de le voir, enfin moi je connaissais
avec
pas.
Lino Ventura
dans Lino de la Blaxploitation, je pense que ça vaut le coup d'œil. Voilà, moi en tout cas, je vais chercher le film désormais.
Mais carrément, parce que le film, en fait, le vrai film du film, le vrai titre, je vais y arriver, du film américain, c'est Three Tough Guys, donc ils sont trois. Mm-hmm. On en a cité deux, donc Isaac Hayes qui joue aussi dans le film, en plus de signer la bande originale, Lino Ventura et Fred Williamson.
Un habitué de la Blaxploitation, Williamson, effectivement, qu'on voit jusque dans Une nuit en enfer.
Voilà, aussi.
Et après d'ailleurs.
Et aussi à noter la présence de Paula Kelly.
Ah, dans qui doit film. Être la belle jeune femme.
La très belle jeune femme, voilà, qui peut-être fait une raison de plus de se procurer ce film, qui a l'air d'être un film de flic d'action, avec une BO magnifique, voilà, dont on a écouté ce morceau. Je te passe le mic,
oui,
Julien.
Oui, alors on va un petit peu bouger, et dans le temps et spatialement, puisque je vais vous passer un morceau du deuxième album de Devile de Jag, à la Horde Sauvage en fait, qui est un projet berlinois de Sébastien Lee Phillips. Donc c'est génial, hein, c'est du krautrock, c'est un peu d'électro, pour moi c'est du krautrock d'un groupe qui ne cherche pas forcément à retrouver les sons de l'époque, mais plutôt à l'inscrire pleinement dans la modernité, mais en gardant les éléments, quoi, un peu ambiante, un peu planant, un peu bidouillage électronique, et puis mélodie, mélodie très européenne, on pourrait dire. Et c'est un double album avec des morceaux assez longs qui prennent le temps. Sur chaque disque, il y a une face un peu plus krautrock, une face un peu plus électro. Et je vous propose un des rares morceaux chantés qui s'appelle 2000 Elephanten.
Geh du Rat dem Abraham.
Avec Zwei Thousand Elephanten de l'album Urwald Orange.
Oh, superbe accent.
T'as vu ça? Ouais, j'ai
allemand.
Fait un an d'allemand en CM2 et je pense que ça se voit.
Ah bah oui, ça s'entend.
Ça s'entend surtout.
Ça s'entend et ce que j'entends aussi dans ce morceau, c'est que c'est vraiment ce qu'on aime. C'est-à-dire effectivement, comme tu l'as très bien présenté, l'impression que ça me fait, c'est que ça n'oublie pas d'où ça vient,
ouais,
sans singer le passé.
Exactement.
Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les...
Bah c'est là qu'on voit
de notre époque qui s'inspirent de morceaux qui ont eu leur grande époque il y a quelques décennies maintenant.
Ouais, sans faire de pastiche. Alors moi, il y a du pastiche que j'aime bien. Je passerai tout à l'heure du Cadavar. Bon, pastiche, c'est un peu dur pour eux, mais voilà, ils sont à fond dans le son de l'époque et voilà. Mais là, je trouve qu'effectivement, il y a s'affranchir un peu des sons de l'époque, mais en les gardant en mémoire. Enfin voilà, c'est vraiment le cocktail effectivement, ouais, que j'apprécie.
Complètement. Et on va passer tout à l'heure aussi, j'ai préparé pour la suite de l'émission, pour faire un petit teaser, un petit peu de néo-soul aussi, où c'est pareil.
Oui, c'est le même esprit.
On peut avoir des choses plus ou moins proches et plus ou moins, on va dire, old school, mais en même temps avec des sonorités intéressantes d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi exploiter et le patrimoine du passé et le potentiel technique.
Exactement.
D'aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est un exercice en tout cas que je salue chez les musiciens qui tentent ces expériences-là, qui ne sont pas toujours faciles. Et en parlant d'influence, eh bien, pourquoi pas un petit Beatles maintenant.
Mais oui, un petit groupe qui
justement qui s'est essayé aussi à pas mal d'expérimentation. Et c'est un morceau dans cet esprit-là que je vous ai choisi, qui s'appelle Love You Too. Il est sur l'album Revolver de 1966. C'est un morceau, une fois n'est pas coutume, composé par George Harrison, qui est, je vous le confie, mon Beatles préféré.
Oui, voilà. Je pense.
J'ai beaucoup d'affection pour George Harrison, peut-être aussi parce que c'est un petit peu le troisième homme derrière les géants que sont Lennon et McCartney, et que peut-être mon affection sert aussi à lui redonner aussi une place que je trouve toujours un petit peu sous-estimée. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Harrison, c'est l'influence du son indien, puisque c'est des quatre Beatles, c'est celui qui a eu le plus gros coup de foudre pour la culture indienne lors du tournage de Help. Il a découvert la culture indienne et ça a été un énorme coup de foudre pour lui. Et ensuite, à partir de Rubber Soul et d'un morceau qui s'appelle Norwegian Wood, il avait introduit des sonorités indiennes, notamment le sitar. Mais comme il le dit, sur Norwegian Wood, lui, il considère que c'était un accident, c'est-à-dire que c'était vraiment une rencontre avec le sitar qui lui a dit « Tiens, il faut que je le mette quelque part ». Et du coup, il a introduit sur sa composition Norwegian Wood. Mais le morceau que je vais vous passer maintenant sur Revolver, donc l'album suivant, il s'appelle Love You Too, et c'est un morceau qui a vraiment été composé pour le sitar et la tabla, qui sont les deux instruments majeurs de la culture indienne. Et vous allez voir, ça s'entend. Il a beaucoup travaillé, George Harrison, pour ce morceau. Il s'est formé au sitar avec le maître du genre, Ravi Shankar, notamment.
Oui, le grand, oui.
Le plus grand joueur de sitar, je pense qu'on connaît. Et puis, voilà, donc il a proposé ce morceau qui est considéré, alors qui a été très peu salué dans la presse occidentale, parce que Revolver, je pense, avait aussi d'autres arguments qui ont pris le dessus. Mais en Inde, c'est considéré comme étant le premier morceau occidental qui fait de la musique indienne sans la singer.
Voilà. D'accord, ah oui, quand même, donc c'est une belle reconnaissance.
Donc on va s'écouter ça, et puis j'espère que ça vous plaira. Thank you.
Orange Disc.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5, l'émission Le Manche Disque. On continue notre exploration vinylesque. Cette fois-ci, c'était avec l'album rouge de Grand Funk, s'appelait à l'origine Grand Funk Railroad. C'est un de leurs premiers albums. Hein. J'ai plus l'année en tête. 69. Voilà, donc c'est quelques années après les Beatles, mais
trois ans après le Revolver en tout cas.
Et en fait, Grand Funk, c'est un groupe, c'est assez marrant leur histoire, ben marrant ou pas. C'est un groupe qui a été assez décrié par la critique en France, un des premiers power trio vraiment vraiment connu, costaud. Alors qu'ils remplissaient des stades aux États-Unis, ils ont eu des succès de fou. Ils vendaient d'ailleurs davantage que les Beatles ou les Rolling Stones à leur heure de gloire. Ils se vendaient un album de Grand Funk toutes les deux secondes, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, un truc hallucinant. Ils ont produit quelques pépites vraiment. J'ai pas les noms là, mais je vous en repasserai de toute façon. Et puis il y a eu de l'eau dans le gaz dans le groupe. Ils se sont séparés. Et pour vous montrer à quel point les choses vont vite dans le milieu du rock et encore plus dans les années 70, ils ont eu quand même l'idée un peu de revenir quelques années après. Là, on est dans le milieu des années 70, vraiment genre 2-3 ans après leur album précédent, sous le patronage de Frank Zappa, qui appréciait beaucoup Grand Funk et qui s'est proposé de leur produire. Alors c'est vrai que leur retour qui s'est fait autour d'un ou deux albums, ils sont quand même pas géniaux. Beaucoup moins bien que les premiers en tout cas. Et ils se sont mais alors pas du tout vendus, et alors que c'était un groupe qui était au pinacle de la célébrité et de la vente. Pensez-y donc, un album toutes les deux secondes quoi, durant un an ou deux. Et trois ans après, complètement oublié, les gens étaient passés à autre chose. Alors certes, leurs albums n'étaient pas formidables, en plus ça n'a pas aidé, mais bon, avec la base de fans qu'ils avaient, on aurait pu se dire quand même c'est reparti quoi. Et ben non, flop, et ils se sont reséparés, puisqu'en plus ça n'allait toujours pas avec eux, puis des mauvaises ventes. Donc malgré ce patronage illustre de Frank Zappa, ça n'a pas collé.
Ouais, donc mais, d'abord victime du succès, puis ensuite du manque de succès. Peut-être.
Exactement.
C'est comme s'il y avait une petite coupure en fait entre les deux périodes, et du coup peut-être que leur fanbase
est partie sur autre chose.
Sur autre chose, et du coup ils l'ont plus retrouvé.
Ça va tellement vite entre 72 et 75, il s'est passé tellement de choses que voilà, les gens étaient partis ailleurs quoi.
Ouais, ok.
Voilà, enfin, très grand groupe, cela dit, donc j'apprécie beaucoup et que j'aurai l'occasion de vous en repasser.
Ah ben avec plaisir. Donc, je voulais vous en parler tout à l'heure. On va s'écouter maintenant un album de Neo Soul, on va dire ça, de Aaron Fraser. Donc, Aaron Fraser, c'est un des membres d'un groupe que j'apprécie aussi. Je crois, une fois au moins. Duran Jones and the Indications. Donc, c'est un membre du groupe qui se caractérise. Donc, il est très présent sur les compositions, mais il chante aussi sur certains morceaux avec une voix de falsetto très très marquante et très agréable. Donc, quand j'ai vu qu'il sortait un album solo, je me suis jeté dessus en précommande. Donc, cet album-là, il s'appelle Introducing Aaron Fraser. Il contient pas mal de titres, mais avec uniquement lui. Du coup, pas forcément d'autres membres, si ce n'est des collaborations occultes, on va dire, en tout cas non officiel du groupe Duran Jones and the Indications. Et c'est un album que j'ai acheté donc aussi en version exclusive Vinyl Me Please. On en parlait lors de la dernière émission. Ils font aussi sur des albums qui sont qu'on peut se procurer par ailleurs. Ils font aussi des tirages,
ils ont des pressages exclusifs,
voilà, numérotés. Donc celui-ci, par exemple, il est à 500 exemplaires, donc j'ai mon numéro 154, voilà. Couleur, effectivement, aussi différente de ce qu'on peut se procurer. Et puis moi, je l'achète via ce club-là, parce que, on l'a dit la dernière fois, au niveau pressage, on a quand même des garanties qui sont bonnes. Donc c'est cette version-là, je vous le dis, pour que vous sachiez quelle version vous allez écouter, puisque c'est direct de la platine qu'on s'écoute les disques. Et comme ça, ça vous fera une idée du son, au moins sur cette version. Celle qui est plus facilement trouvable par les autres gros vendeurs, gros marchands ou disquaires, petits disquaires indépendants qu'on vous encourage à soutenir. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut parce que je ne l'ai pas écoutée, mais vous pouvez faire peut-être un petit comparatif à l'oreille.
can't take much more.
Bad News de Aaron Fraser. Il y a un petit peu de Marvin Gaye aussi, hein, par moment, je trouve, quand on
écoute
ça. C'est vraiment sympa et je vous conseille vraiment cet album qui est vraiment dans cet esprit-là et qui vaut vraiment le détour. Donc notez bien ce nom, Aaron Fraser. Et puis bon, on espère
qu'il en fera d'autres.
Qu'il en fera d'autres avec le groupe aussi. Hein,
oui,
mais,
bien sûr.
Mais ouais. C'est pas du tout une carrière solo, c'est pas un split, hein, du tout. Hein. Donc,
bon, tant mieux. Ouais, Duran Jones, c'est très bon aussi.
Mmh. Voilà, Duran Jones, ils ont fait bien la promotion de son album, donc c'est vraiment l'esprit, allez mon copain, éclate-toi, fais ce qui te branche, et puis c'est pas du tout un split, donc ne vous inquiétez pas les fans. Donc maintenant on va changer de style, si j'ai bien compris.
On change du tout au tout, puisque je vais vous proposer un morceau d'un groupe anglais du début des années 80, enfin qui tourne peut-être toujours, mais en tout cas là à l'époque, là c'était les années 80, le tout début 1983, c'est leur deuxième album. Je veux parler de Zoviet France. Zoviet France, c'est un groupe d'indus, mais de l'indus pur et dur, c'est-à-dire on n'est pas à la Marilyn Manson avec de l'indus métal ou du rock industriel, on est purement dans le bruit des machines. Leur deuxième album s'appelle Monomiché, et puis à l'époque il tenait avec un espèce de brin de laine, enfin il était un peu fait maison, un peu comme ce qu'on avait pu dire avec Duruti Colom lors de leur dernière émission, c'était un petit peu ça. Il est devenu assez difficile à trouver, bien sûr il y a eu des rééditions qui reprennent très légèrement l'esprit, parce qu'on a un petit filet rouge qui nous rappelle le petit brin de laine, mais voilà. Alors c'est un disque qui a été réédité récemment, voilà, par VOD, qui est de tout de suite devenu assez introuvable aussi. Donc voilà, il y a vraiment de la demande pour des faibles tirages, et on va s'écouter un morceau qui n'a pas de titre.
Qui n'a pas de titre.
Non, voilà. Untitled. Okay.
Donc là, on sort des sentiers battus.
Ah oui, on n'en mettra pas tout le temps.
On prévient les auditeurs.
Voilà, un peu après tout, pourquoi
là,
pas.
Là, c'est découverte, immersion dans l'indus pur et dur, donc.
c'était un morceau donc bien industriel de Zoviet France avec ce petit, cette petite boucle là sur
la laisse. Je la laisse parce que c'est intéressant pour les vinyleux ça.
Ouais.
En termes de technologie vinylistique, je
c'est
sais pas
ça.
Si c'est ça l'adjectif.
En tout cas, c'est ce que ne permet pas le CD pour le coup, effectivement,
ouais,
puisqu'on est sur une boucle qui se répète, qui se répète.
Ça a un nom, mais je l'ai pas là.
Ouais, je l'ai plus. Endless quelque chose, je crois. Enfin, ouais. Et ce qui est assez rigolo avec un morceau d'Indus qui est passablement répétitif, c'est que la première fois qu'on l'écoute, on finit par se dire ah oui, non, mais là quand même, il est un peu long le morceau là. Et en fait, non, on est à la fin du disque et ça tourne en boucle. Alors, il n'y a pas ça sur toutes les faces, mais voilà, c'était assez rigolo.
Ouais.
Et je voulais vous passer ce morceau-là. Et je suis sûr que certains de vos disques, pour ceux qui en ont ça aussi. Alors, des fois, c'est des petits trucs qui tournent en boucle, ou des fois, voilà, il y a quelques pistes comme ça, quoi.
Oui, sur un des Endless Boogie,
oui.
Me semble-t-il qu'il y a ça aussi.
Il y a une petite voix. Oui, une voix.
Tout le temps la même chose.
Ouais.
Mais là, c'est vraiment remarquablement fait, je trouve, parce qu'effectivement, il y a une espèce de continuité, il n'y a pas d'interruption entre les boucles. Donc, c'est vraiment bien calculé, bien pensé. Et puis, considérer que quand on tourne la tête, pour vous, les auditeurs qui ne voyaient pas le disque, ce qui est plutôt frappant, c'est que cette boucle-là, elle est vraiment mais tout près du label.
Ah oui, oui. C'est-à-dire
que là, il n'y a même pas de risque de se tromper. Le stylus, il est à quelques millimètres du label. Donc, on est sur le dernier du dernier sillon de la
tête. Et on pourrait écouter ça pendant les plus fanas d'entre vous. J'espère qu'il y en a quand même parmi nos quelques auditeurs, nos centaines de milliers d'auditeurs.
Voilà,
au moins.
Forcément, et tu dis que le disque c'est arraché et que maintenant il est plus du tout en disponible.
Ah non, il est assez cher. Bah pour la petite anecdote, voilà, c'est le disque qui est pourtant récent, hein, puisqu'il y a une édition qui date de très récemment. Là, j'ai pas la date peut-être, mais bon, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est le disque que j'ai payé le plus cher de toute ma collection, quoi, pour le coup.
Eh ben, écoute, on va rester un petit peu peut-être dans le... Pas dans l'Indus, mais en tout cas dans
le brutalité.
Côté un peu, voilà, brutal, rugueux. Voilà, mm-hmm. C'est ça que je cherchais comme adjectif, le côté un peu rugueux, puisqu'on va s'écouter un morceau donc d'Iggy Pop and the Stooges sur l'album Raw Power. Raw Power, dont tu me disais, toi, un bon spécialiste quand même de cette clique-là, que cet album avait été enregistré dans des conditions, on va dire, assez calamiteuses.
Oui, c'était assez chaotique avec pas mal d'usages de stupéfiants par Iggy Pop, James Williamson et probablement les frères Ashton qui étaient venus à la rescousse en section rythmique. Tout ça sous un lointain patronage de Bowie qui a fini par récupérer les bandes pour la petite histoire et s'est rendu compte que c'était un massacre et a eu un week-end pour faire son mix. Un mix qui a créé un débat qui a eu cours sur... plusieurs décennies, puisqu'on l'a accusé d'adoucir un peu la sauvagerie des Stooges, de rendre le son plus commercial, etc. D'ailleurs, Iggy Pop, dans les années 90, ira de son propre mix à lui.
Voilà.
Et l'histoire.
97.
Ouais, l'histoire n'en finira pas à ce moment-là, puisque le dernier acte, probablement quand même, là, vu qu'il y a un des protagonistes malheureusement qui est décédé, l'autre qui a envie de passer à autre chose, j'imagine. Le dernier acte, à l'occasion d'un des anniversaires de Raw Power, je pense, a été de sortir ce que Iggy Pop a qualifié de mix ultime. Et ironie du sort, pour ceux qui ont décrié le mix de Bowie, il est parti du mix de Bowie sur lequel il a bidouillé quelques trucs. Moi, je pense que c'est plus pour la forme qu'autre chose. Et ça révèle qu'il était peut-être plus attaché à ce mix-là, peut-être pour l'époque, ou peut-être que ça lui rappelait quelque chose. Enfin voilà, finalement, lui-même a fini par adouber le mix de David Bowie quelques 40 ans après l'album qui est de 73 ou 72 ou quelque chose comme ça.
73. Ben justement, on va parler de cette différence de mix puisque moi je veux vous passer la version justement qui réunit les deux mix. Donc c'est un gatefold avec double vinyle, un vinyle qui reprend le master original, donc 1973 par David Bowie, avec le mix de David Bowie, et puis le deuxième qui prend justement le mix de 97 d'Iggy Pop. Et on peut s'apercevoir quand même que dans le mix de Bowie, alors effectivement, je pense qu'il a eu à bricoler avec pas mal de choses, avec un matériau, on va dire, difficile.
Oui, c'est possible.
Mais
et puis peu
cas,
de temps, je crois, aussi.
C'est pas un mix qui est neutre, et effectivement, je pense qu'on peut lui prêter certaines intentions, parce qu'il y a un vrai parti pris. C'est assez intéressant en tout cas à écouter et on va s'en faire une idée sur le morceau qui s'appelle Search and Destroy. qui est le morceau d'ouverture en fait. Et moi je vous invite à faire attention à la place qui est donnée à la voix de Iggy Pop, qui reprend peut-être ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les instruments et la voix sont vraiment sur un niveau très très asymétrique, et c'est vraiment ce qui frappe aux oreilles. Alors est-ce pour adoucir quelque chose, pour mettre en avant autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un vrai parti pris dans ce mix, et je vous propose de vous en faire une idée tout de suite.
Now you're down in the Texas field. Oh, super, 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 super,
Attack, le groupe Attack, avec le morceau School Days. Alors finalement, le hasard presque fait bien les choses. Enfin, je ne devrais pas dire hasard, parce que ça voudrait dire qu'on n'a aucune programmation, on bosse dur. Mais en le fait que les titres se suivent font bien les choses, puisque Attack, c'est un groupe de St. Clair Shores. Et St. Clair Shores, c'est dans le Michigan. Le morceau, donc School Days, date de 1969. Et donc, on est complètement dans le son des Stooges. Alors, pas tout à fait de l'album Iggy de Stooges, qui est un album un peu plus, on va dire, légèrement britannique. Mais voilà, c'était des contemporains, des voisins des Stooges, qui n'ont pas eu la même célébrité, mais qui pourtant envoient du gros, eux aussi.
Ouais, et des précurseurs du punk, parce que je pense qu'on peut entendre dans ce côté heavy, peut-être les premières prémices de quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de du psychédélisme hippie.
Oui, 169, ouais, complètement, c'est assez dur, hein, c'est
Peace and Love et
Post-Altamont, peut-être, ouais. On pourrait dire comme je présentais, puisque effectivement vous en doutez peut-être, ça vient de la série Brown Acid, The Eighth Trip, le huitième.
Ouais,
et j'en profite pour dire que pour ceux qui aiment cette collection et qui essayent de tenir le rythme, le 12e est en précommande, le 12e opus. Et donc en précommande en ce début 2021, il est disponible sur le site Riding Easy Records, qui, attention, a deux boutiques, ne vous faites pas avoir. Il y a une boutique américaine, mais il y a également une boutique européenne anglaise avec des frais de port beaucoup plus intéressants. On est à 400 dollars. On paye en dollars, mais c'est quand même une boutique où ça part d'Angleterre. Et c'est dispo courant avril, avec les précommandes déjà disponibles.
Bientôt alors. Bientôt.
Ah oui, ça sort bientôt.
Ah, mais c'est cool. Ça va bientôt être l'heure du dernier morceau maintenant. Donc on va se dire au revoir après celui-là. Un morceau de Cat Power. Cat Power, une artiste en fait, parce que c'est pas un groupe, c'est une artiste principalement, de son vrai nom Charlene Mary Chan Marshall, qui est une jeune artiste, enfin qui à l'époque de ce disque était une jeune artiste. En fait non, en fait elle fait jeune dans son approche musicale, mais je regarde sa date de naissance, elle est née en 72 et en fait ce morceau-là, c'est début 2000, cet album-là début 2000 qui s'appelle You Are Free. Moi je l'ai découvert vraiment là tardivement, c'est pour ça que je m'emmène un petit peu les pinceaux dans ma présentation, parce que je sais pas une artiste que je maîtrise, mais elle m'a fait de l'effet quand je l'ai écoutée, je peux pas dire ça autrement, et donc je me suis intéressé un petit peu à ce qu'elle a fait, et elle a un parcours assez atypique que j'apprécie moi dans son approche et dans la façon dont elle a mené sa carrière, tout en modération et en intégrité, quoi. C'est le genre d'artiste qui commence parce qu'elle se fait opéré par un groupe un peu plus chevronné qui l'invite à faire une première partie, elle se fait repérer par d'autres musiciens qui dit tiens on va produire ton album, et puis à un moment donné elle fait un album qui lui plaît, et puis elle se dit bon bah, c'est bon maintenant je me retire un petit peu dans une ferme, je vais me ressourcer un petit peu. Dans cette ferme elle fait une expérience un peu hypnoïde qui lui inspire son deuxième album, et puis elle a vraiment une approche un petit peu, je dirais, artistique, spontanée,
ouais, libre un peu comme le titre
libre,
de l'album,
exactement,
un peu,
ça inspire beaucoup de liberté, You Are Free d'ailleurs, effectivement, tu fais bien de faire le lien, cet album qui s'appelle You Are Free et qui se caractérise, alors moi j'ai pas vraiment écouté tous ses autres opus, hein, mais ça se caractérise apparemment par une approche un petit peu plus rock que les autres. Alors moi je l'ai écouté, on est sur quelque chose de très épuré, de très éthéré, de très planant, on est sur quelque chose de pop folk, hein, si on peut le classifier, mais effectivement il y a peut-être plus d'accent rock, mais alors attention, on n'est pas du tout sur les Stooges, hein, là, on est sur quelque chose vraiment de très modéré et de très introspectif. Donc je vous ai choisi un morceau qui est un petit peu plus révélateur du côté rock, qui s'appelle He War, et sur laquelle, alors là encore, révélateur de l'aspect rock, aussi peut-être recherché dans les musiciens qui ont collaboré à l'album, puisque à la batterie, nous aurons un certain Dave Grohl, notamment, pour ceux qui ne le connaissent pas, de Nirvana et des Foo Fighters. Donc on se dit au revoir.
Oui, on se dit au revoir.
Dans 15 jours, et
ouais,
puis on se quitte là-dessus.
Ça marche.
Voilà, sur peut-être une découverte pour certains auditeurs, peut-être du plaisir de redécouverte pour ceux qui connaissaient Cat Power avant moi. Voilà. Key War sur l'album You Are Free. Salut.
Allez, bye bye.
À dans 15 jours.